Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 29 septembre 2025. Le mois touche à sa fin et on s'en sort plutôt pas mal pour un mois qui est censé être historiquement pourri. Pas de Lehman Brothers cette année et les chiffres de l'inflation continuent de monter. Mais comme c'est dans les attentes, ça ne choque plus personne. La semaine dernière ne s'est pas terminée au plus haut de tous les temps, mais l'un dans l'autre, on a réussi à inverser la série baissière du milieu de semaine. Le PCE n'a pas fait peur et maintenant on peut se concentrer sur l'autre épouvantail de Wall Street, le shutdown du gouvernement. C'est lundi et on commence la semaine. C'est d'ailleurs à peu près la seule certitude que l'on a. C'est que l'on commence la semaine. De mon point de vue, les marchés financiers n'ont jamais été aussi schizophrènes. Ça monte quand ça devrait baisser, ça baisse quand ça devrait monter. Et surtout, ça s'apprête à se retrouver dans le noir total parce que le gouvernement américain pourrait tout simplement fermer ses portes mercredi soir à minuit. La première économie mondiale pourrait mettre le panneau fermé pour cause de désaccords politiques sur sa vitrine. Alors c'est pas la première fois de ces 30 dernières années qu'ils nous font le coup, et à chaque fois on ressort les livres d'histoire et les livres de science-fiction pour essayer de tirer les plans sur la comète et deviner ce qui pourrait bien se passer si le gouvernement de Donald Trump fermait ses portes pour quelques jours. Et pour être parfaitement complet, en général, on brasse de l'air pendant 3 jours et on trouve une solution miracle à la dernière minute, comme dans les bons films de suspense made in Hollywood où le gentil espion de la CIA coupe le fil rouge pour éviter que la bombe explose et détruise New York. Et au moment où il coupe le fil, il reste une seconde sur l'horloge du compte à rebours. Ben, le shutdown du gouvernement US, c'est ça. On brasse de l'air, puis on coupe le fil et on rachète les Great Eight et puis c'est tout. Mais apparemment, cette fois, ça pourrait être différent. Comme à chaque fois, alors on reprend les bouquins et on essaye de comprendre encore une fois ce que ça veut dire. Alors déjà, non, ça ne veut pas dire que les mecs de la Fed vont arrêter d'imprimer de la monnaie, et ni que l'armée américaine va poser les armes pour aller pointer au chômage, ça veut dire que toutes les administrations dites « non essentielles » vont être envoyés au chômage technique. Bureau of Labor Statistics, publications économiques, chiffres officiels, bref, tout ce qui nous permet normalement d'avoir une vague idée de l'état réel de l'économie va disparaître, momentanément. Alors bon, quand on voit le niveau et la qualité des chiffres du BLS en ce moment, je dois vous dire que ce serait presque une bonne nouvelle de les voir fermer, un bon moment en tout cas, que ça leur donnerait une bonne raison de réfléchir et de faire une introspection sur eux-mêmes. Non, parce qu'entre vous et moi, si on regarde les publications du BLS depuis que Trump a viré l'ancienne patronne, on a l'impression que les mecs prennent le consensus le plus consensuel que l'on puisse trouver à Wall Street et qu'ils se contentent de publier exactement les mêmes chiffres. Comme ça, personne n'est déçu et personne n'a peur. En 2025, ce n'est plus les économistes qui essaient de trouver les bons chiffres officiels, ce sont les chiffres officiels qui se collent au consensus. Le seul problème, c'est que ce shutdown, s'il se produit, tombera pile poil la semaine de l'emploi. Vous savez, les NFP, ce chiffre que tout le monde attend comme si c'était le Messie, le rapport sur l'emploi. C'est un peu le Super Bowl des statistiques. Tout le monde en parle, tout le monde a un pronostic, et à la fin, c'est surtout une question d'interprétation, comme d'habitude. Un peu moins de création d'emplois, et c'est le doute qui s'installe. Un petit 4,2% de chômage, et c'est l'euphorie, parce que l'économie tient bon, que la Fed pourra dormir tranquille, et que les marchés vont pouvoir se payer un petit rallye. Mais si ça monte d'un dixième à 4,3%, alors là, c'est la crise existentielle. Oh mon Dieu, la récession est à nos portes. Et puis, s'il y a plus d'emplois créés que prévu, c'est formidable parce que l'économie, elle va trop trop bien. Bref, c'est le chiffre qui met tout le monde en transe, la météo officielle du moral de l'économie. Sauf que si le shutdown se confirme, vendredi, on n'aura rien. Pas de chiffres, pas de commentaires. Pas même une révision foireuse sur laquelle je pourrais vomir dès lundi matin. Le grand vide intersidéral et une salle de marché sans données. C'est un peu comme un bar sans alcool. Au début, on rigole, on fait semblant que ça va aller, puis très vite, ça dérape. Les traders s'ennuient et ils inventent des scénarios débiles. Ils surréagissent au moindre tweet ou au moindre bruit de couloir. Et quand tu donnes à un marché trop de temps libre et zéro données à digérer, eh ben, il finit toujours par se créer son propre feuilleton. En gros, ça n'est pas une bonne idée de laisser Wall Street sans os à ronger parce qu'il serait capable de s'inventer des raisons pour acheter ou vendre. Pour faire simple, les marchés n'ont pas si peur que ça du shutdown. Et d'ailleurs, ça se voit puisque les futurs sont déjà largement en hausse ce matin. Non, le problème, c'est laisser les marchés dans le noir qui poserait des problèmes sur le moyen terme. Mais on peut compter sur les politiciens pour nous trouver un bon scénario bien débile dans les jours à venir. C'est comme la dernière fois où on s'est trouvé emmerdé par le plafond de la dette. Eh bien, ils ont décidé de supprimer tout simplement le plafond comme ça. Hop ! Problème réglé. Alors pourquoi ce genre de truc se produit tous les 6 mois ? C'est très simple, le budget américain se termine le 30 septembre et comme tous les ans, les républicains et les démocrates jouent au poker avec des milliards de dollars. L'un veut couper les dépenses sociales, l'autre veut protéger les crédits santé, et plutôt que de trouver un compromis, ils préfèrent fermer le magasin histoire de montrer qui a la plus grosse volonté politique et surtout que c'est de la faute de l'autre camp si ça ne va pas. On est tous conscients que trouver un politicien honnête et intelligent, ça devient presque aussi rare que de trouver un politicien honnête et intelligent. Et résultat, à partir de mercredi minuit, si rien n'est signé, on baissera les stores et il n'y aura pas de chiffre de l'emploi, pas d'inflation, pas de CPI le 3 octobre, pas de CPI le 15 octobre. Et Powell sera, comme nous, obligé de prendre des décisions de taux au feeling en lisant les sondages sur TikTok. Et attention, attention, il ne faut pas mélanger shutdown et debt ceiling, le plafond de la dette. C'est quand le Trésor ne peut plus payer les intérêts de la dette et que l'Amérique risque le défaut technique. Là, c'est que la fermeture administrative. Les fonctionnaires ne bossent plus. Ça change pas grand-chose. Mais les intérêts de la dette continuent d'être payés. Ça reste complètement con, mais c'est moins apocalyptique. Du coup, comme à chaque shutdown éventuel, on se pose la question de savoir si c'est bien ou pas bien pour les marchés, si ça va se péter la gueule ou pas. La réponse est « ça dépend ». À court terme, pas vraiment. Les shutdowns précédents n'ont pas fait s'écrouler Wall Street. En 2018, Trump 1.0 avait même réussi à tenir 35 jours sans gouvernement. Les traders avaient continué à s'extasier sur Apple et à pleurer sur GE, et tout s'était bien passé. Mais cette fois, l'effet pervers, c'est le blackout des données. Si on n'a pas de données économiques cette semaine, ça ne pouvait pas tomber plus mal. Non seulement nous serions aveugles et sourds afin de pouvoir spéculer sur les futures décisions de la Fed, mais en plus, la Fed elle-même serait tout aussi aveugle et sourde que nous. Ce qui fait que Powell devrait se résigner à prendre une décision sur les taux en lisant dans le marc de café ou en tirant les cartes de tarot, deux techniques ancestrales qui n'ont pas brillé par leur efficacité ces 154 dernières années. Imaginez un pilote de ligne qui traverserait l'Atlantique sans instrument, juste en regardant les étoiles. Voilà à quoi va ressembler la Fed sans chiffre de l'emploi ni inflation. Et un marché sans GPS, même si on a parfois des doutes sur son efficacité, ça devient vite nerveux. Les probabilités de volatilité qui explosent en octobre sont réelles, comme chaque mois d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien qu'on est déjà à 83% de probabilité de shutdown pricé par les bookmakers. Bref, cette semaine, on va parler shutdown, et vous avez intérêt à potasser le sujet, parce que même si on en parle tous les 6 mois, on a une fâcheuse tendance à oublier le sujet dans la minute où les républicains se mettent d'accord avec les démocrates. Et pour faire simple, le shutdown m'a bien aidé pour cette chronique. Mais à la fin, il faut retenir une chose, c'est qu'on en a très rapidement plus rien à foutre. Est-ce que cette fois, ça peut être différent ? J'en doute. En attendant le blackout, on a quand même eu une dernière bougie pour éclairer la pièce, le fameux PCE, l'indicateur préféré de la Fed pour mesurer l'inflation. Verdict, une inflation qui reste collante, plus 0,3% sur le mois, plus 2,7% sur un an. Pas catastrophique, mais pas non plus la victoire finale sur la hausse des prix. Ce qui était surtout intéressant sur le PCE de vendredi, c'est qu'encore une fois, le chiffre monte. En étant donc très basique et rationnel, un chiffre de l'inflation qui monte, ça veut dire que le coût de la vie est plus cher ce mois que le mois précédent. Donc l'inflation monte et on a de la peine à la contrôler. Mais la bonne nouvelle, c'est que le marché s'en tamponne comme jamais puisque ce mois, le PCE était dans les attentes. Et si c'est dans les attentes, c'est que tout va bien. Donc le marché a aimé. Que ça soit dans les attentes, il n'a pas tiqué une seconde sur le fait que ça montait. Les attentes, c'était quand même bien. La consommation reste donc solide. Les Américains continuent de dépenser, que ce soit pour des vacances à Disney, des SUV qui consomment comme un porte-avions ou des assurances santé hors de prix. Bref, la demande reste là. Et tant que les cartes de crédit ne sont pas grillées, l'économie américaine tient. Ce qui complique la tâche de Powell, faut-il vraiment continuer à baisser les taux si tout le monde dépense comme si de rien n'était ? En fait, l'inflation, c'est comme les dates de péremption. À 2,7%, ça va tant que c'est dans les attentes. À 2,8%, ça ira tant que c'est dans les attentes. À 2,9% aussi, ça ira si c'est ce qu'on attendait. Et puis à 3%, ça sera comme la boîte d'huîtres bouillies à l'escabèche et au beurre de cacahuète. Elles étaient consommables jusqu'au 31 octobre à minuit. Mais le 1er novembre à 0h01, les huîtres sortent de la boîte et repartent à Arcachon par le premier TGV. L'inflation, c'est pareil. Ça va, si c'est dans les attentes, jusqu'à que l'on décide que les attentes sont dépassées. La seule chose, c'est que l'on ne connaît pas. C'est le niveau exact qui nous fera disjoncter. Et visiblement, c'est pas 2,7% encore. Et puis, puisqu'on parle d'indicateurs, il faut aussi évoquer le Buffett Indicator. Vous savez, ce petit ratio qui compare la valeur totale des actions américaines au PIB. Warren Buffett disait en 2001, si ça approche 200%, vous jouez avec le feu. Et ben, devinez quoi? On est à 217%. plus haut qu'en 2000, plus haut qu'en 2021, plus haut que tout ce qu'on a connu d'ailleurs. En théorie, ça veut dire que le marché est en mode bulle XXL. En pratique, tout le monde s'en fout parce que les investisseurs se racontent que l'économie moderne n'est plus basée sur des usines et du pétrole, mais sur des clouds et de l'IA et des promesses d'investissement circulaire entre Nvidia et OpenAI. Alors forcément, on justifie des valorisations lunaires avec des belles histoires où à la fin, Iron Man, en fait, il n'est pas mort. Pendant ce temps, Buffett lui-même garde 344 milliards de cash chez Berkshire Hathaway, mais en fait non, le marché s'en tape, il continue à acheter du Nvidia à 60 fois les bénéfices, c'est sûrement différent cette fois. Nous entamons donc une nouvelle semaine à haut risque, la 37e de l'année. Est-ce que l'on doit retenir, et ce que l'on doit retenir pardon, pour commencer à entamer ce lundi correctement, c'est que l'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés et les milieux des bookmakers de Las Vegas que l'on pourrait avoir un shutdown ce mercredi. Un shutdown qui pourrait éventuellement plonger les marchés dans le brouillard. On se souviendra aussi qu'on a un PCE qui dit que l'inflation n'est pas encore morte, mais que les Américains dépensent toujours, comme si Visa et Mastercard ne faisaient plus payer les intérêts débiteurs. Et on a un Buffett Indicator qui clignote rouge, écarlate, mais qui ne fait plus peur à personne. En résumé, cette semaine s'annonce intéressante, parce qu'on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. On sait qu'on va devoir interpréter plein de trucs, ou pas du tout. On pourrait bien se retrouver en train de brasser de l'air en se basant sur du vent. Mais plus rien ne m'étonne, et plus rien ne m'étonnera cette année. Excellent lundi à tous. Ce matin, il y aura le CPI espagnol, Waller et Williams qui parleront. On publiera aussi les pending home sales, mais une chose est certaine, la seule chose qui va exploser sur ChatGPT, c'est le nombre de recherches qui disent « Explique-moi ce que c'est le shutdown et est-ce que ça peut faire baisser les marchés ?» Pour le reste, on se voit demain. Bonne journée à tous.